checkez la pupille. Là. Quand la pupille se dilate, il compte une menterie.
C'est la seule affaire qui se dilate à mon âge. Bon, ça fait. Là, à un moment donné, je vais demander à Rosie qu'elle me fasse un petit, ce qu'on appelle communément dans le langage radio, un jingle chanté pour vrai ou fausse nouvelle, parce qu'on joue ça souvent, puis ça me manque, ça aussi.
Parfait, je prends la commande.
Bon, faut le préparer, parce que spontanément, la semaine passée, on a créé une chanson, puis c'était pas la meilleure.
C'était pas moi, c'est jamais la meilleure quand moi et toi, nous sommes en création. Alors, le jeu est simple, je vous donne une nouvelle. Parfois, je les invente de toutes pièces. Des fois, j'en prends une qui existe, mais je la romance un peu, alors vous devez deviner s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse nouvelle. Vous êtes prête à jouer avec moi?
Oui, JC!
Exactement. Sachez qu'autrefois, on pouvait être condamné, on parle du 16e siècle, là, pour un homme, entre autres, qui n'était pas capable de satisfaire sa dame, si vous voulez dire, au lit, d'une certaine manière. Là, si le petit soldat ne levait pas, par exemple, vous comprenez?
Difficulté érectile.
Difficulté érectile. Il pouvait avoir une sanction sévère qui est appliquée. Il y a même un procès. On pouvait défiler devant un jury.
Puis, mettait devant des madames. Puis s'il ne se passe rien...
Alors donc, on pouvait être sanctionné. Ben oui, c'est stressant, surtout devant public, de même avoir une ovation debout. donc, est-ce que c'est vrai, ça?
Vas-y.
Condamné pour impuissance.
Ben, moi, je dirais faux,
là. On est au 16e siècle,
ouais.
C'est barbare un peu comme mentalité.
Oui, ben,
pensez-y.
Mais
c'est pas nécessairement au Canada, là. Je parle en Europe.
Ah!
C'est une question de religion que vu que t'es pas capable de faire ton devoir conjugal, c'est tout ça qui est illégal.
Ben, c'est une violation qu'on pourrait qualifier délibérée de sacrement du mariage, on peut dire.
Mm-hmm. Moi, je pense que c'est vrai.
Moi, je dis que c'est faux.
C'est vrai. C'est capoté, ben, imagine-tu, toi, imagine-toi. Donc, on a une gang qui serait enfermée.
Ah bon?
Ben, je parle pas pour moi. Alors, attention, félicitations, Eric. C'est quand même particulier. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben non, c'est pas vrai, même quand j'ai lu la nouvelle. J'étais du même avis que Rosie. Voyons, non, c'est complètement absurde.
Mais je serais curieux de voir comment ça se passe.
Ça s'est passé au 16e siècle. Mm. Alors, donc, un point pour Eric. Deuxième nouvelle, vous savez que dans le jargon populaire, les policiers sont affublés de toutes sortes de surnoms, comme par exemple...
chien, poulet, cochon.
C'est ta liste que tu traînes sur toi. L'explication pour ça, c'est que à l'époque, ça se passe dans Paris, notamment, on est dans les années 1800. Les policiers étaient de garde devant les poulaillers. Ça faisait partie également de leur travail.
Oui.
Et puis, on les surnommait tout simplement, justement, des poulets, ils avaient ça comme fonction pour éviter que on vole des poulets et
les animaux.
Il y avait du trafic d'animaux et on volait beaucoup les animaux à cette époque-là pour nourrir nos familles, notamment. Alors, les policiers, on les surnommait les poulets. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Moi, j'étais dans l'histoire. Moi, je dis que c'est vrai. J'étais captivée. Je veux dire que c'est vrai.
Ça, c'est intéressant. Puis après ça, ça a fait le tour du monde. Puis chicken, poulet.
Nugget.
Au nom du fait que ça m'apparaît très évident comme histoire, je dis que c'est faux.
C'est complètement faux. J'ai tellement bien joué. J'ai inventé, tu sais, j'ai trafiqué des affaires, j'ai mis ça dans la même nouvelle.
Je t'ai dit, pendant un instant, j'ai oublié qu'on jouait, puis j'étais comme, une belle dinde.
écoute, je dirais peut-être, tu sais, c'est pas évident, jouer à ça, mais ce qui est le fun, c'est qu'on apprend des choses en même temps.
Ça aurait bien pu.
Il y a différentes façons, je termine avec ceci, pour réanimer des gens qui sont en détresse, des personnes, par exemple, que tu veux sauver d'une noyade, on les sort, évidemment, de l'eau, et après ça, on applique une pression sur le thorax, on pince le nez, on souffle dans la bouche. Votre formation d'RCR, c'est la méthode à faire. Mm-hmm. À l'époque, sachez qu'au 18e siècle, en Hollande notamment, qui avait mis une espèce de façon de procéder pour réanimer des gens, c'est assez spécial. On leur insérait un soufflet dans le péteux. OK? Oui. Et c'était poussé avec le tout et un tube, un long tube qui était relié à une pipe où que tu pouvais consommer du tabac, là. Mm. Et on le resifflait ça dans le rectum, dans le péteux.
Pour faire sortir l'eau.
Exactement, faire sortir l'eau. C'était la façon qui était. Exactement. Et on dit qu'avec la chaleur de la boucane également, ça réchauffait la personne parce que souvent aussi, après réanimer une personne
noyade,
oui, il y a de l'hypothermie, tout, il faut la réchauffer. Donc, après cette insufflation de tabac-là, on réchauffait le noyer et puis on le réanimait de cette manière-là. Est-ce que c'est vrai qu'on envoyait ça dans le trou de perte?
Moi, je dis que c'est faux.
Moi, je suis convaincu que c'est vrai.
Vrai. Ah! Mais c'est tellement barbare comme méthode, j'en voudrais pas se faire rentrer de quoi dans le snorzo.
Je l'imagine, tu le racontes.
Ils ont arrêté ça parce que c'était trop dangereux et effectivement, il est arrivé plusieurs dommages collatéraux. C'était pas les meilleurs souffleux des fois qui se présentaient en pompe. Mais ça s'est pratiqué, effectivement, au 18e.
Ben, 3 en 3, Eric.
Le soufflé de l'anneau. Oh boy. Oh!